Prenez avec vous l'antenne de Radio Campus pour le magazine hebdomadaire USTL Info, chaque mercredi, 17h30. Aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir deux personnes dont on va présenter les actions au niveau de l'Université de Lille 1. Il s'agit de Guy Seignier, qui est ancien professeur d'électrotechnique de l'USTL et qui va nous parler du patrimoine scientifique. Il est accompagné d'Antoine Matrion, qui est chargé de mission au patrimoine scientifique également. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Monsieur Guy Seignier, le patrimoine scientifique, ça représente quoi? Et ça représente, quelle richesse pour une université comme celle de Lille 1?
Je suis un physicien qui s'est intéressé au patrimoine tout à fait accidentellement. Je pense que la théorie de l'intérêt du patrimoine, c'est M. Matrion qui devrait la développer, puisque lui est quand même un historien spécialisé patrimoine. Et moi, si vous voulez, je raconterai de façon plus anecdotique comment j'ai été amené à ramasser les vieux appareils.
Donc, effectivement, pourquoi d'abord ce patrimoine constitue-t-il quelque chose d'essentiel à préserver? Et comment il se développe, il évolue et qu'est-ce qu'on en garde?
Le patrimoine est essentiel pour une université quelle qu'elle soit, et bien sûr pour celle de Lille, puisqu'elle fait partie intégrante de l'histoire d'un établissement comme celui-là, qui maintenant a plus de 150 ans. Et donc il est le marqueur à la fois de ce qu'a su fabriquer cette université, donc de son savoir-faire. Et il est aussi un socle commun sur lequel peuvent s'appuyer les nouvelles générations, que ce soit d'étudiants ou de chercheurs, pour intégrer et appartenir à cette université au sens propre, c'est-à-dire développer un sentiment d'identification par rapport à cette université.
Alors, on a déjà eu l'occasion d'accueillir le directeur de la bibliothèque, où il y a un patrimoine. Le patrimoine, il est aussi dans les outils, peut-être, il est aussi dans l'architecture, peut-être, il est aussi dans les travaux qui ont été faits et l'état de conservation de ces travaux.
Oui, bien sûr. Le patrimoine scientifique a l'avantage d'être plus parlant et direct. Il montre les réalisations concrètes. On a besoin de passer par un autre média, que ce soit l'écrit ou l'interprétation de l'architecture, demande déjà des biais plus compliqués. Le patrimoine scientifique rend concrètement fait des créations de l'université.
Mmh. Alors, quelles sont les créations dont vous êtes le plus fier et que M. Seignier a conservé à force de travail acharné?
Donc, c'est tout à fait accidentellement que je me suis intéressé au problème du patrimoine. Il y a 7-8 ans, on m'a demandé de faire une exposition sur les vieux appareils scientifiques de l'université. Et nous avons été très surpris de la richesse de nos réserves. Mmh. Alors, bon, j'ai laissé passer quelques temps, puis après, mon activité scientifique s'étant ralentie, j'ai commencé à ramasser des appareils. Et j'ai commencé évidemment par la physique, parce que je suis un physicien, et c'est en physique qui a les plus beaux appareils.
Enfin, J'aime bien quand vous dites les plus beaux. C'est vrai qu'il y en a qui sont très beaux en bois, très précieux, magnifiques.
On trouve des appareils avec des socles très travaillés, en laiton, en ivoire, avec des bois de si grande qualité que les socles n'ont pas du tout bougé. On est vraiment ébahi devant la qualité artistique d'appareils scientifiques. Et d'autre part, on est ébahi aussi devant l'astuce de nos collègues d'il y a une centaine d'années qui ont inventé des procédés qui nous surprennent encore.
Alors, ces appareils, ils étaient faits à grande échelle ou c'était presque de l'artisanat?
Alors, j'essaie d'avoir des appareils qui ont été fabriqués ici. Mm-hmm. Mais il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une centaine d'années, la communauté scientifique était très réduite. Et dès qu'un professeur, un chercheur trouvait un appareil, trois, quatre années après, tous les laboratoires possédaient cet appareil.
D'accord.
Donc, on peut suivre, si vous voulez, l'évolution des disciplines à la rentrée des appareils dans les divers laboratoires.
Mmh. On peut dire que la popularité ou la reconnaissance d'un professeur se faisait par l'étendue de ce qu'il a laissé comme appareil dans les divers labos.
Oui. Il y avait beaucoup d'artisans, mais la communauté scientifique fait que les gens se connaissaient beaucoup plus, qu'ils étaient peu nombreux. Alors, ce qui est amusant, c'est... Enfin, c'est un peu anecdotique, mais c'est les vieux appareils, les très vieux, quand je les trouve, on ne sait même pas ce que c'est. Mmh. Donc la première chose à faire, c'est de donner un nom à ces appareils. Et ensuite, alors, si possible, de trouver d'où ils viennent et à quoi ils servent. Mmh. Et alors pour cela, je cherche les vieux ouvrages de physique, souvent moi chez Opus, et puis des fois je trouve un dessin, et c'est le dessin d'un appareil que j'ai dans la réserve. D'accord. C'est comme ça qu'on réussit à redonner vie aux appareils en leur donnant un nom, si possible une date de naissance, et si possible une fiche d'utilisation.
Alors, est-ce que sur l'université, il y a un conservatoire ou un conservateur, un musée? Comment ça se passe?
Alors, c'est là le problème, c'est que je suis tout à fait amateur, quoi, puisque je suis un retraité physicien. Quoi. Alors, pour le moment, on m'a donné des salles où je stocke des appareils. En ce moment, il y a 520 à peu près appareils inventoriés. Ce qui représente le volume de 7-8 expositions. Une exposition, il faut 60 appareils à peu près. Alors, c'est entreposé en des armoires, puis on m'a donné deux pièces qui débordent d'appareils. Donc, j'ai des petits dépôts à droite à gauche, dans mon ancien labo, chez des copains. Enfin, mais il est évident qu'un jour ou l'autre, il faudra faire ce qu'on appellerait une salle de collection qui existait dans les anciennes universités, où on pourrait voir les appareils séparés les uns des autres, pour qu'on puisse au moins les voir. Pour le moment, ils sont empilés. Quoi.
Alors, c'est vrai que peut-être à Paris, il y a un musée. Hein, il y a un musée. Mais est-ce qu'à Lille, par exemple, ça peut entrer dans le cadre, enfin dans la région, du musée des sciences et de l'industrie ou du musée d'histoire naturelle? Est-ce que des gens peuvent, à la limite, s'intéresser à vos œuvres, à vos objets?
Pour le moment, on ne remplit pas notre mission. Notre mission, ce serait que les gens puissent voir les appareils.
Voilà.
Et pour le moment, ils sont empilés en des armoires. La seule chose qu'on puisse faire pour le moment, c'est en attendant d'avoir un musée ou une salle de collection, c'est de réaliser un site. On a réalisé un site internet sur lequel, chaque fois que j'ai un paquet d'une quarantaine d'appareils à peu près du même domaine scientifique, on les met sur le site. Alors pour chaque appareil, il y a la photo, évidemment, le nom du fabricant, l'année approximative de fabrication et 7 ou 8 lignes qui expliquent à quoi il servait.
D'accord.
Alors, pour le moment, j'ai fait 40 appareils d'électricité, 40 appareils d'électrotechnique, c'est ma spécialité, 40 appareils d'optique, 40 appareils d'instrumentation en biologie. Et en ce moment, je prépare une série sur mesure des poids, des densités et des températures.
Alors, je suppose que tout ce patrimoine, ça, c'est aussi une trace d'histoire, une histoire de vie aussi, des gens qui ont vécu avec ces appareils, qui les ont conçus. Qui est-ce qui les fabriquait?
Oui, alors, le problème, c'est que... je crois qu'il faut citer quand même notre fortune. Notre fortune, c'est la boîte des cristaux de Pasteur. Pasteur a été le premier doyen de cette faculté. Il s'est servi un microscope que nous avons, enfin, c'est pas lui qui l'a fait, d'une balance que nous avons, mais c'est pas lui qui l'a faite. Mais il a réalisé de ses mains une 48 cristaux à Liège pour expliquer à ses élèves qui faisaient le cours de cristallographie les diverses formes de cristaux. C'est vraiment formidable. Alors après, bon, il y a des choses qui ont été fabriquées ici, mais la difficulté, c'est que quand on fabrique quelque chose dans nos laboratoires, c'est souvent pour une expérimentation, et puis on jette l'appareil. Donc j'ai beaucoup de mal, mais enfin, j'ai réussi quand même à voir des choses fabriquées chez nous. Parce que c'est vraiment les témoins de notre histoire. Et dans, je m'énerve un peu, mais je dis, dans cette université, il y a une trentaine d'ateliers. Les gens qui sont dans les ateliers fabriquent bien quelque chose. J'aimerais qu'ils m'en donnent
mais oui.
quelques-uns.
Pour la postérité. pour la postérité.
Ben oui, oui. Puis les gens font de très belles choses. Donc ça commence à venir, mais si vous voulez, les sciences évoluent très vite. Les gens font quelque chose pour une expérimentation, mm-hmm. publient les résultats, et puis c'est fini, on jette l'appareil.
Bien sûr.
Justement, je pense qu'il y a encore un travail à faire au niveau des scientifiques sur cette prise de conscience de la nécessité de garder leur patrimoine. On ne peut pas les blâmer, ce sont des scientifiques. Ils sont là pour faire des recherches scientifiques. Un objet, quand il n'est plus utile, on le jette. Ça peut se comprendre. Donc le rôle que doit encore développer l'université, je pense, c'est d'imprimer, notamment chez les nouveaux chercheurs qui arrivent et qui sont souvent très concentrés sur leur recherche et leur fonction scientifique, que tout appareil a un intérêt et qu'il ne faut pas jeter.
Mmh. Ou du moins, avant de vous en parler.
Voilà, au moins qu'il y ait quelqu'un de référent qui puisse servir.
Donc c'est un peu votre travail, Antoine Matrillon, d'aller un peu à la recherche, à la pêche, au trésor.
Voilà. Bah, Monsieur Séguier le fait également, on travaille en collaboration finalement là-dessus. Mon travail consiste aussi, on va dire, de resservir de relais institutionnels du travail de Monsieur Séguier au niveau de l'université. Le vice-président à la culture, Nabil Lagar, est maintenant aussi vice-président pour le patrimoine scientifique. Il a donc pour rôle officiel de prendre en charge cette question. Moi, je suis son chargé de mission sur cette question-là, donc je travaille en complément de Monsieur Séguier. Notamment, j'inventorie ces objets sur le plan informatique, justement pour la postérité, puisqu'il faut garder une trace de ces objets.
Alors, Monsieur Séguier, ces collections que vous présentez sur Internet, on l'a dit par série de 40, est-ce qu'elles intéressent les gens du monde entier? Est-ce qu'il y a des gens qui vont chercher sur Internet, justement, des traces de l'activité scientifique?
Oui, si vous voulez, les vieux appareils ont l'avantage de bien illustrer le phénomène physique qu'ils mettent en œuvre. Donc les gens sont très intéressés par ce travail. Et M. Matrillon, c'est le spécialiste du patrimoine qui met ça en forme, qui fait des liaisons avec l'extérieur. Et ce qui est fort apprécié, c'est les 7 ou 8 lignes que j'écris sur chaque appareil pour l'expliquer. Mm-hmm. C'est un travail très difficile, parce que je peux être physicien, mais il y a beaucoup d'appareils, je ne sais pas ce que c'est. Et d'autre part, il faut l'expliquer d'une façon simple. Mais je crois que c'est la richesse un peu de ce que nous faisons ici, c'est qu'on ne fait pas simplement un inventaire, on explique à quoi ça servait.
Alors, expliquer c'est bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une forme de jeu où on présente donc des appareils et on demande aux gens à quoi ça a servi?
Ah oui, oui. Mais normalement, à chaque appareil, dans les 7-8 lignes que j'y consacre, je dis quel est le principe et à quoi ça sert.
Mais je veux dire que même des scientifiques face à ces appareils pourraient très bien essayer de répondre et après seulement on aurait la réponse. Ça pourrait être un jeu assez intéressant de savoir si les scientifiques actuels sont capables de remonter le temps et un peu la philosophie de ces objets et leur destination.
Sur des appareils qui ont plus de 50 ans, il n'y a plus de témoins de l'époque où ils sont venus. Et les appareils très anciens, j'ai fait défiler mes collègues qui sont comme moi, un peu âgés, et ils ne m'ont pas apporté beaucoup de renseignements, tellement les choses évoluent vite. Donc la seule chose, c'est la source possible, c'est les vieux ouvrages scientifiques. Alors, anecdotiquement, j'ai fait une découverte extraordinaire. En 1897, deux collègues physiciens ont fait un livre de travaux pratiques. Et dans ce livre de travaux pratiques, il y a les schémas des appareils utilisés en travaux pratiques. Et j'ai retrouvé 18 des appareils dont les schémas étaient dans le livre. Donc je suis sûr qu'ils sont antérieurs à 1897 et ils sont très bien conservés. Alors la difficulté pour les autres appareils, c'est qu'il faut trouver leur origine. Là, j'ai le texte explicatif sous les yeux.
Oui. Et ça montre ce qu'il faut faire avec les objets qui sont encore même en activité aujourd'hui. C'est que précocement, il faut savoir à quoi ils servent dès aujourd'hui, puisqu'on voit que la mémoire finalement se perd assez rapidement.
Alors, On parle de patrimoine, effectivement, c'est un patrimoine culturel, c'est aussi peut-être un patrimoine tout simplement en termes d'importance de ces objets, de leur prix, de leur valeur. Il y a beaucoup de collectionneurs, il y a des gens dans le monde entier qui s'échangent sur Internet, qui font des appels, des mises en vente sur des sites. Est-ce que vous êtes sollicité pour ces
objets? Oui, d'abord les gens me prennent pour un expert. Donc des fois, ils me demandent d'évaluer un appareil. Dès le départ, j'ai dit que je voulais conserver la mémoire de notre université. Donc j'ai refusé tous les dons d'appareils extérieurs. Tous les appareils qui sont chez nous, c'est des appareils qui ont servi soit nos étudiants, soit nos chercheurs. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens quand même qui ont des choses, mais qui n'intéressent pas leurs enfants. En particulier, un certain nombre de collègues, en partant, ont pris des appareils sur lesquels ils avaient travaillé, tout ça. Et puis, comme vraiment ils ne s'intéressent pas à leurs enfants, ils les ramènent. Mm-hmm. Donc,
Est-ce que ces appareils sont numérotés, référencés? Comment ça se passe au niveau de ce patrimoine de l'université?
J'ai commencé, mais lui, après, il fait ça en scientifique. Moi, chaque appareil fait une fiche. Mm-hmm. Avec son nom, où je l'ai trouvé, comment il s'appelle, et puis je ramasse tous les renseignements que je peux sur l'appareil. Bon, mais ça, c'est le bricoleur, donc moi j'ai bricolé mes petites fiches, et maintenant M. Patrion arrive, et lui a la formation ad hoc.
Alors, cette formation, elle s'apprend auprès des conservateurs de musées ou...
Alors, moi j'ai suivi une formation qui est dispensée à l'Université d'Artois sur la question du patrimoine scientifique. Mm-hmm. L'inventaire de ce genre d'objet répond à des normes précises. Sur ce plan, nous travaillons avec les normes du Musée des Arts et Métiers de Paris, donc avec lequel l'université a passé une convention et qui nous permet de donner une visibilité nationale pour le futur à ce patrimoine, puisque nous travaillons sur un inventaire qui pourrait être consulté de manière nationale.
Mmh, bien sûr. Donc ou internationale.
Ou internationale, éventuellement, puisque le Musée des Arts et Métiers est connu internationalement. Mmh. Donc, le travail de M. Séguier de référencement est très utile, et moi, j'ai la mission de le mettre à jour, on va dire, pour le faire entrer dans ces normes.
Mmh. Monsieur Séguier?
Oui, j'étais très heureux que quelqu'un du métier vienne, parce que j'ai commencé tout à fait accidentellement à faire le sac. J'y ai pris beaucoup de plaisir, parce qu'en réalité, j'étais un physicien. Le physicien, ça me touchait les choses. Et malheureusement, les 30 dernières années de ma carrière ont été plutôt d'identifier des chercheurs que chercher moi-même. Et maintenant, je peux toucher enfin des objets, les nettoyer, regarder comment ils marchent. Le seul problème, c'est que ma femme vous respecte un peu, parce que des fois, il y a des odeurs un peu fortes de désinfectants dans la pièce où je travaille. Mais c'est devenu pour moi une vraie passion, donc j'aime bien toucher ces objets.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de ces objets sont réalisés avec une très grande finition, en matériaux, j'allais dire, nobles ou de grande qualité. Est-ce qu'il y a néanmoins des objets qui sont en danger d'être abîmés, de mal se conserver? Est-ce que vous faites appel éventuellement à des gens pour vous aider?
Pour le moment, à toute vitesse, j'essaie d'éviter qu'on jette des objets.
Déjà.
Bon. Mais alors après, il y en a qui sont un peu en mauvais état, mais je commence à avoir des collègues, en particulier le professeur Delay, qui sont des bricoleurs et qui réparent les appareils. Mm-hmm. Monsieur Delay, c'était un chimiste, donc, mais il était très physicien. Et il fabrique même des petites pièces qui manquent pour remettre en état les appareils. Donc, et j'ai un jeune retraité de la physique, M. Destrin, qui va faire la même chose. Donc petit à petit.
On va créer un club peut-être de gens passionnés, d'associations.
Ah, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent.
Oui, bien sûr.
Oui, il y a des gens qui font des photos, il y en a qui me disent, mais sur Internet, à tel endroit, j'ai trouvé votre appareil, vous ne savez pas ce que c'est, mais moi, j'ai trouvé ce que c'était. Il y en a un qui a trouvé un appareil d'optique dans un musée de Florence, et on l'avait, il était cité comme inconnu chez nous, et à Florence, on a trouvé ce que c'était.
C'est quand même formidable, à partir du matériel, on rejoint beaucoup l'humain.
Finalement, ces objets portent une mémoire. Ils portent la mémoire des gens qui les ont conçus, qui les ont utilisés. Et cette mémoire mérite d'être transmise aux acteurs contemporains.
Et même après la mise en réseau des gens qui s'intéressent, c'est aussi de l'humain.
Je vous dis, le seul truc, c'est que les gens croient que je suis un spécialiste. Alors ils m'envoient des photos en me disant qu'est-ce que c'est et combien je peux le vendre.
Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que finalement, avec la collection de M. Séguier, on se rend compte que, et en communiquant avec les autres universités en France, on se rend compte qu'il y a très très peu d'établissements qui font cet effort. Et on n'a pas forcément de point de comparaison, mais à mon avis, il y a très peu d'universités qui ont des collections aussi de telle valeur.
C'est vrai, peut-être qu'on peut dire qu'effectivement, ça dépend de l'ancienneté de l'université ou de sa culture. L'université de Lille, avant, c'était globalement Lille, et donc ça date d'il y a combien de siècles ?
Mais l'université de Lille, l'enseignement de la physique à Lille a commencé vers 1810-20 avec Andelsen. Et après, alors, c'est devenu une faculté avec Pasteur, vers 1860. Donc, on a des appareils, mettons sur 500 appareils, il y en a 300 qui sont antérieurs à la guerre de 1914. Mm-hmm. C'est vraiment une fortune.
On insiste beaucoup sur l'ancienneté des appareils, mais de mon point de vue, il ne faut pas oublier que les objets, même s'ils ne sont pas anciens, ont de la valeur. C'est-à-dire que les objets utilisés récemment sont le patrimoine de demain. Donc effectivement, sur le plan esthétique, souvent ils sont moins intéressants, ils sont faits d'objets de matériel moins précieux, mais ils méritent d'être inventoriés et conservés.
Alors, au-delà de ça, au niveau historique, est-ce que certains de ces objets, lesquels, ont donné l'occasion de découvertes très intéressantes?
Oui, mais ils ont donné lieu, mettons tout ce qui est un moyen d'observation, ça a été utilisé pour inventer des choses. Mais ça, l'invention s'arrête au moment où on publie un article sur la question. Et alors après, si c'est un appareil qui a été fabriqué pour cette recherche typique, on le jette. Moi, je suis un ancien directeur de laboratoire, mais tout ce qu'on a fabriqué pour une thèse, quand la thèse est passée, ça encombre, donc on a tendance à le jeter.
Voilà, alors si donc des personnes qui ont travaillé sur l'université ou des gens qui chinent un peu, qui ont retrouvé des choses qui appartenaient au patrimoine de l'université de Lille, ont envie de vous les ramener, c'est possible ? De ramener les objets qu'ils retrouvent ailleurs ?
Il y en a qui ramènent. Il y en a même qui. Donc. Moi, je travaille sur le sigle de l'ASAS, l'Association des Anciens, c'est mon support.
D'accord.
Donc, on a une permanence au P7, et de temps en temps, je trouve sur ma table des appareils que les gens ramenaient, sans dire ce que c'était, ni sans dire qui les avait ramenés.
Ah, c'est très bien, ça.
Oui, mais je crois qu'on a réussi quand même à sensibiliser un peu les gens de l'université.
Très bien. Donc, une conclusion, peut-être. Antoine Matrillon, et maintenant, alors dans les prochains mois ou l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer concrètement par rapport à ce travail ?
Ce qui est important de signaler, c'est que M. Séguier dit que nous avons beaucoup d'objets, mais il y a un souci actuel aussi de l'université, c'est de les montrer, ces objets. Donc, au sein de l'espace culture, il a été décidé que ces objets seraient exposés au moins une fois par an, dans le cadre d'une exposition annuelle. La prochaine aura lieu sur le thème de la géologie, que nous travaillons en collaboration avec le Musée d'Histoire Naturelle dans le cadre de l'année de la Terre, et nous espérons exposer quelques objets de M. Séguier dans le cadre de cette exposition. Et dans le passé, M. Séguier s'est occupé d'autres expositions qui exposaient ces objets de
Donc,
grande valeur.
La prochaine à l'espace culture, c'est à quel moment, à peu près?
Alors ce sera à la fin de l'année, normalement à partir du mois de novembre jusqu'à la fin de 2008.
J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc.
J'espère aussi.
Merci donc d'être venu, Antoine Matrillon. Merci Guy Séguier, et puis donc bon courage et bonne chance, bonne pêche, j'allais dire, pour tout ce que vous allez retrouver encore à présenter au public bientôt. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.